VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale et les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 10 personnes ont été massacrées lundi soir près de la frontière ougandaise de la province du Nord Kivu. C'est ce qu'ont indiqué ce mardi des sources locales, ce qui porte à près de 400 le nombre de personnes tuées dans la région depuis début novembre. Selon John Kambale, un responsable local, les victimes sont 8 civils, plus un agent des services de renseignement et un soldat qui ont été tués lors de l'attaque contre le village de Manzahalo. Le bilan a été confirmé par un officier sous couvert d'anonymat. L'armée a attribué la tuerie au groupe rebelle des ADF, les forces démocratiques alliées, qui ont intensifié leurs attaques dans le nord Kivu depuis début novembre. Agitation anglophone au Cameroun, l'ONU a réclamé aux autorités camerounaises ce mardi une enquête indépendante, impartiale et complète après le massacre dans lequel plus de 20 personnes ont été tuées dans la partie anglophone du pays. Nous pressons les autorités de s'assurer que l'enquête sera indépendante, impartiale et complète et que les responsables devront rendre des comptes, a déclaré le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme dans un communiqué. Et toujours au Cameroun, des responsables de sécurité ont confirmé hier que le groupe djihadiste Boko Haram a tué 3 civils dans la nuit de samedi à dimanche dans une localité de l'extrême nord du pays. Les détails avec Irénée Armand Umbo.
Le bilan de l'attaque a été confirmé par un officier de l'armée en poste dans la région. La première victime a été décapitée, la seconde tuée par balle, alors que la troisième est morte calcinée. Les assaillants ont incendié une centaine d'habitations, a détaillé l'officier de police. Selon lui, 3 enfants sont portés disparus depuis l'attaque. Les djihadistes ont aussi pillé des commerces et volé des céréales. Né au Nigeria en 2009, l'insurrection de Boko Haram s'est propagée en 2014 dans l'extrême nord du Cameroun, borde une partie du lac Tchad. Sa faction affiliée au groupe État islamique ISWAP est particulièrement active dans cette zone. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac. Outre ces attaques djihadistes dans le nord, l'armée et des groupes séparatistes s'affrontent dans les deux régions anglophones. Des exactions et des crimes contre des civils sont perpétrés par les deux camps, selon les rapports d'ONG internationales. Ce conflit a fait plus de 3000 morts et forcé environ 700 000 personnes à fuir leur domicile, selon des ONG.
Afrique de l'Ouest maintenant, au moment où Washington examine une réduction de ses forces en Afrique, d'importantes manœuvres militaires annuelles sous commandement américain ont débuté ce lundi dans le centre-ouest de la Mauritanie. Quelques 1600 soldats de pays africains et occidentaux y participent. Le point avec Bagassi Koura.
L'exercice Flintlock est organisé depuis 2005 par AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Le but est de renforcer la capacité des principaux pays partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité de leur population, selon le site de l'ambassade des États-Unis en Mauritanie. Une cérémonie d'inauguration de l'édition 2020 a eu lieu lundi à Attar, dans le centre-ouest de la Mauritanie. Les exercices qui doivent s'achever le 28 février se dérouleront également à Nouakchott et Kaédi en Mauritanie, ainsi que dans la ville sénégalaise de Thiès. Parmi les 15 pays africains qui prennent part aux manœuvres figurent le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. En plus des États-Unis, une quinzaine de pays non africains, dont la France et le Japon, participent à l'exercice selon l'ambassade américaine à Nouakchott.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La pression djihadiste est très forte dans l'extrême nord du Togo et la menace est réelle. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État togolais Fornia Singbe, qui a rendu récemment visite à ses troupes déployées le long de la frontière avec le Burkina Faso. Le président a fait état des attaques de plus en plus meurtrières au Burkina voisin et il a exhorté les populations, les leaders religieux et les chefs traditionnels à aider les forces togolaises de défense et de sécurité. Fornia Singbe a également souligné que plusieurs arrestations ont eu lieu ces derniers mois sur le territoire togolais. L'élection présidentielle se tient samedi au Togo. La campagne électorale pour cette présidentielle du 22 février prend fin ce jeudi. Elle se déroule sans incident, mais les candidats se plaignent de n'avoir toujours pas touché l'enveloppe attendue de l'État togolais. Reportage à Lomé de notre correspondante Kai Lawson.
Les candidats à cette élection présidentielle sont dans l'expectative des 42 millions de l'État togolais comme contribution pour le financement de la campagne électorale. Malheureusement, à 3 jours de la fin de cette campagne, les candidats lorgnent toujours du côté du trésor public sans gain de cause. Une situation jugée inadmissible par le CACIT. Ghislain Nyakou, directeur exécutif de cette organisation de la société civile.
La campagne est pratiquement arrivée à son terme. Aucun parti politique n'a encore reçu le financement. Cela nous étonne d'autant plus qu'il y a récemment un décret qui est sorti, qui a reprécisé le montant qui doivent être alloués. Donc pour nous, il faut que les partis politiques rentrent dans leurs droits.
Le retard accusé dans le décaissement de ces fonds paralyse les activités prévues par les candidats, aussi bien ceux de l'opposition que celui du pouvoir. Le ministre des Droits de l'Homme chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Trimoin, par ailleurs représentant du candidat du parti au pouvoir, évoque des procédures administratives.
Le gouvernement travaille à cela. Je comprends un peu les procédures financières qui font que le décaissement devrait se faire, il me semble, dans les jours à venir très rapidement pour que nous puissions, en tant que candidats, disposer également des moyens nécessaires à cette compétition. Nous espérons, nous poussons que ça se fasse avant la fin de la campagne. Nous avons des dépenses à assurer avec cet argent-là et naturellement, nous demandons au gouvernement de faire le maximum pour que nous puissions également rentrer dans nos fonds pour soutenir notre candidat convenablement comme il se doit.
Dans l'opinion collective, le gouvernement togolais aurait sciemment bloqué les fonds pour empêcher les autres candidats de pouvoir se déployer comme cela se devait. Au même moment, le parti Unir aussi dit se plaindre de n'avoir pas reçu ce financement. Ghislain Nyakou revient pour clarifier les motivations qui sous-tendent le financement de la campagne électorale par l'État.
Ceci aurait permis que chaque parti ait les moyens, un peu de moyens quand même, pour pouvoir faire la campagne et toucher les populations avec leur programme de société. Nous savons que tous les partis politiques n'ont pas forcément les mêmes moyens. C'est pourquoi le législateur a prévu une loi. Je pense que c'est l'esprit, la lettre de la loi. Et ceci pour permettre à chaque candidat d'avoir un minimum pour faire la campagne.
L'article 10 de la loi portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales dispose que l'État contribue au financement des campagnes électorales des partis et regroupements de partis politiques ainsi que des candidats ou listes de candidats dans le cadre des élections législatives et présidentielles. Dans le cadre de cette présidentielle, 500 millions de francs CFA ont été prévus, dont 60% devaient être répartis à égalité entre les 7 candidats et les 40% restants seront répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Tournée du secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Afrique avant Addis Abeba en Éthiopie, la troisième et dernière étape de son périple africain. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu hier à Luanda avec le président de l'Angola, João Lourenço. Mike Pompeo a salué la lutte anticorruption engagée par le leader angolais, notamment contre la famille de son prédécesseur à la tête de l'État, José Eduardo dos Santos. Les précisions de John Lindon.
En 2 ans et demi au pouvoir, le président Lourenço a abattu un travail formidable pour faire de la corruption un fantôme du passé, a déclaré Mike Pompeo lors d'une conférence de presse après s'être entretenu avec le président angolais. João Lourenço augmente la transparence, il aide les institutions financières à faire le ménage et poursuit les coupables, a salué le secrétaire d'État américain en tournée en Afrique. Depuis qu'il est président, João Lourenço, membre du parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, a procédé à d'importants changements dans les institutions, les entreprises publiques et l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption. Plusieurs proches de son prédécesseur sont directement visés, notamment la fille de l'ex-président Isabel dos Santos, limogée de son poste de PDG du géant pétrolier public Sonangol et son demi-frère José Filomeno dos Santos, qui présidait le fonds souverain du pays. Le secrétaire d'État américain s'est également dit encouragé par les efforts du gouvernement angolais en vue de privatiser 195 entreprises publiques, une décision qui va grandement attirer des investissements privés.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Oh oh.